CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Ah ben voilà, j'ai plus rien à dire, comme l'a dit le journaliste à l'instant, c'est jeudi, c'est politique, et donc je cède mon micro à Kader Youb pour son rendez-vous politique avec aujourd'hui, effectivement, Brigitte Barège, candidate sortante à la municipalité de Montauban. Bonjour Madame Barège.
Bonjour Rémi.
Et bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous, bonjour Brigitte Barège, bienvenue sur CFM.
Bonjour Kader.
Une actualité malheureuse ces jours-ci à Montauban, après l'incendie et le saccage de l'école de Marcel Guéret. Une première réaction, Madame Barège, au sujet de ces actes de vandalisme commis dimanche dernier, des dégâts estimés à 200 000 euros et les auteurs présumés très vite interpellés.
Oui, d'abord j'étais sur les lieux le soir même. J'avoue que ça fait un effet assez sinistre parce que je suis arrivée après le théâtre où il y avait les lettres d'automne, il faisait nuit. Le sol de la cour était jonché de vaisselle brisée, ils ont cassé toute la vaisselle de la cantine. Et ensuite, comme vous l'avez rappelé, les images, j'ai la mémoire de ces images de fourchettes et de couteaux plantés au plafond, qui avait été, ça a été un jeu sans doute de fléchettes, j'en sais rien. Et puis évidemment, tout était saccagé, un démarrage d'incendie. C'est toujours pitoyable qu'on voit quand on s'attaque aux écoles, même si c'est une cantine en l'occurrence. Puis sans parler des dégâts collatéraux pour la commune, le préjudice considérable. 150 repas tous les jours, il faut acheminer les enfants par 3 navettes de bus pour les amener au centre du Ramirou. Et cela, ça va durer plusieurs mois, puisque le temps de refaire les travaux.
Justement, donc le centre de loisirs du Ramirou, donc, qui accueillera provisoirement, et vous l'avez rappelé, les élèves de Marcel Guéret. Est-ce que vous avez une date, une estimation en tout cas
Pour l'instant, vous savez, comme nous sommes soumis au marché public, il faut lancer des appels d'offres, faire des estimations, et les estimations des assurances, mais aussi pour nous des travaux à faire. Ça va prendre, à mon avis, plusieurs mois. J'ose pas dire 6 mois, peut-être
six
que.
Mois.
Je ne sais pas au moment où je vous parle, mais ça va prendre du temps. Je voudrais rappeler qu'on a identifié les auteurs, vous l'avez dit. Ce sont des jeunes gens de à peine 14 ans tous les deux, qui étaient donc placés dans un foyer qui est à proximité, le centre départemental de l'enfance et de la famille, qui ont été donc livrés à eux-mêmes à la fois le samedi soir et le dimanche, sans aucune surveillance.
C'est un centre qui jouxte l'école.
C'est un centre qui est juste à côté de l'école. Moi, je me pose des questions quand même sur l'encadrement de ce type de foyer, qui sont des foyers justement de placement, et qui normalement devraient être particulièrement attentifs à l'évolution de ces mineurs.
Vous allez demander des comptes ?
Avant, de toute façon, on sera bien obligé. D'abord, on a déposé plainte, bien sûr, pour les assurances. Mais les assurances qui nous dédommageront se retourneront contre les auteurs et les responsables civilement. C'est le centre qui encadre, qui est censé surveiller, en tout cas, ces adolescents.
Comment arriver à de tels actes, selon vous, Madame Barège ? C'est un épiphénomène ou ça traduit une...
Je vous avoue que je suis assez désemparée en tant que responsable politique, en tant que mère de famille, même grand-mère, de la violence ambiante qui est sans cesse grandissante dans notre société. La violence, vous le voyez dans les médias, dans les propos, la violence dans la rue, mais la violence aussi dans les familles, enfin partout, dans les images, la télévision. Et je pense que tout ça, évidemment, ne peut qu'influer, hélas, sur les jeunes gens, sur les enfants qui sont fragiles, sur les adolescents, qui peuvent même, sans doute, je pense à cela, s'ils ont été placés, c'est que ce sont des enfants qui ont peut-être connu des violences aussi dans leur enfance. Donc je trouve que tout ça est très inquiétant. Alors je suis quelqu'un qui est normalement très foncièrement optimiste dans le devenir, l'avenir de notre société.
Oui, pourtant, j'allais vous le dire, on sent quand même beaucoup de pessimisme.
Oui, je vous avoue que oui. En ce moment, je trouve que on n'y voit pas très clair. Cette société fait peur dans tous les domaines. Alors je ne parle même pas d'amorosité. On en parlera peut-être tout à l'heure, dû à la crise, mais. La surtaxation, enfin, la difficulté de ce gouvernement à trouver sa voie, à essayer de piloter ce pays. J'ai l'impression que la France va mal, voilà, globalement.
Allez, on reste dans le chapitre d'éducation.
Oui, permets, je voulais juste mettre cette info en miroir avec une polémique qui dure depuis quelques temps sur Montauban, qui est portée pas mal par RESF, sur les 30 enfants qui n'ont pas accès à la cantine, qui sont scolarisés, mais qui n'ont pas accès ni à la cantine, ni au bus scolaire.
C'est un sujet sur lequel je me suis déjà suffisamment exprimée. D'ores et déjà, je redis, ils sont scolarisés, vous avez bien fait de le rappeler, ils ne sont pas à la rue. Aujourd'hui, nous en avons aujourd'hui plus de 130 scolarisés dans les écoles de Montauban, entre les demandeurs d'asile et les gens du voyage. Et j'ai demandé l'enquête à Manuel Valls, qui d'ailleurs s'est fait rendre un rapport très récemment sur les demandeurs d'asile. Je dois voir le préfet de région prochainement, parce que je je ne voudrais pas que Montauban soit la seule ville, seule commune de la région Midi-Pyrénées à accueillir ces familles. Je crois savoir qu'à Cahors, il n'y en a pas. J'aimerais savoir quelle est la situation d'Auch, de Rodez. Bref, je trouve qu'il est normal qu'il y ait la tradition d'accueil de la France est une tradition que je ne remets pas en question, qui est de plus en plus sollicitée aujourd'hui. Mais je pense que les choses ne sont pas équitablement réparties sur le territoire français. Et c'est une de mes questions.
Avant de revenir sur le chapitre de l'éducation, Madame Barège, vous avez évoqué Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Celui-ci a reçu, vous devez être au courant, le rapport l'État Touraine sur la réforme de l'asile. On sait que justement, Montauban est particulièrement concerné par l'asile.
Je le crois.
Que pensez-vous de cette orientation éventuellement à venir sur une territorialisation des demandeurs d'asile ? Avec des cellules de l'OFPRA qui seraient donc disséminées un peu partout sur le territoire national.
C'est ce que je demande. Moi, je crois que chacun doit prendre sa part. Chacun doit prendre sa part de la solidarité nationale. On en parle souvent. Et je ne voudrais pas que parce que Montauban a une association particulièrement, des associations particulièrement militantes, parce que Montauban est plus près de Toulouse, parce que Montauban, et j'en suis fière, a beaucoup travaillé sur la construction de logements sociaux, et soit particulièrement grevé de cette générosité qu'elle a su manifester. Et je voudrais pas que ça handicape aussi les écoliers montalbanais. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, nous sommes à 5255 élèves scolarisés, c'est-à-dire nous avons atteint notre seuil, notre plafond d'accueil dans nos écoles de Montauban. Ça veut donc dire qu'en cours d'année, nous ne pourrons plus accueillir les enfants d'un militaire, puisque vous savez qu'ils se déplacent, n'importe quelle famille qui voudra arriver sur Montauban, eh bien, sera forcément dirigée vers des institutions privées. Et ce n'est pas mon idée de l'école de la République.
Est-ce que, selon vous, il y a trop de demandeurs d'asile ici à Montauban ?
Je me pose la question, je ne sais pas, au moment où je vous parle, j'ai demandé des explications au plus haut niveau, je vous l'ai dit, auprès du ministre de l'Intérieur et de l'Immigration.
Pas de réponse.
Et j'ai un rendez-vous demain en préfecture de région pour évoquer ce sujet.
Bon, on revient sur le chapitre éducation, et vous l'avez entendu, Madame Barège, la France est classée 18 sur 34 pays de l'Organisation de coopération et de développement économique appelée l'OCDE. La France qui perd 5 places au classement PISA, un programme international pour le suivi des acquis des élèves. Faut-il s'alarmer, selon vous, de ce mauvais classement ?
Oui.
Y a-t-il une surprise ?
Pas de surprise, c'est une lente, une dégringolade régulière. On suit ces chiffres chaque année, ces classements des CDE, et on voit que chaque année, nous perdons du terrain. Nous perdons du terrain face aux pays émergents. Je pense à la Chine, qui est très bien classée cette année, à l'Asie, etc. Et je crois que là, il y a vraiment une vraie question sur l'école de la République, dont je parlais tout à l'heure, qui est le socle de notre société, qui va mal en raison de problèmes de corporatisme, qui va mal en raison d'égoïsme ambiant. Vous savez, quand je parle de la société en général, aujourd'hui, je trouve qu'on est une société de plus en plus égoïste.
Les responsables socialistes qui, pour évoquer ce classement, ce mauvais classement,
oui.
Évoquent la casse du système scolaire opéré par le gouvernement Fillon, les cinq derniers.
Moi, je crois que ce petit jeu-là, de dire de l'inventaire, de parler du bilan, ce bilan, il est assumé par tous les gouvernements successifs. Nous n'avons pas le courage de faire des réformes dans l'école, parce que nous ne voulons pas mécontenter des syndicats enseignants qui sont très puissants. On voit qu'aujourd'hui encore, alors je ne comprends plus rien, ils manifestent dans la rue pour le rythme scolaire. Ils ne sont jamais contents, de toute façon, quelles que soient les réformes. Alors, ne parlons pas des gouvernements de droite qui ont toujours du mal à réformer l'école, mais je vois que pour M. Vincent Payon, ce n'est pas chose plus facile. Donc, si personne ne veut y mettre du sien, eh bien, on continuera à dégringoler et la partie sera belle pour les établissements privés. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, je pense.
En tout cas, l'UMP tire à boulet rouge sur cette réforme des rythmes scolaires. Est-ce que cette réforme que vous avez mise en place,
oui,
vous,
moi, j'ai en Montauban,
est-ce qu'elle est de nature à pallier peut-être les lacunes ? Est-ce que dans les années à venir, on en ressentira les bienfaits ?
Personnellement, si vous voulez, nous l'avons mise en place pour deux raisons. Une raison purement économique, c'est que l'État avait dit que si on la mettait en place en 2013, il nous aiderait financièrement.
Avec un fonds d'amorçage ?
Voilà, à raison de 50 euros par élève. En réalité, ça nous a coûté 150 euros, on en parlera tout à l'heure, bon, mais peu importe.
Oui.
C'était, bon, le petite carotte, mais quand on veut gérer les deniers publics, comme on savait que c'était obligatoire, que c'était pas 2013, c'était 2014, on dit autant s'y inscrire tout de suite. Deuxième chose et plus fondamentale. Moi, je crois sincèrement, vous voyez, on parlait de ces jeunes désœuvrés, qui ont cassé l'école. Hein, et c'est tout un symbole quand même, hein, que ces enfants s'attaquent à une école. Peut-être tout simplement parce que c'était le bâtiment le plus proche, mais peut-être qu'il y avait autre chose derrière. Et je crois que précisément, la semaine des 4 jours et demi, le fait de mettre une matinée de plus des enfants devant des écoles, dans des écoles encadrées par des enseignants, c'est une chance de plus peut-être pour ce type d'enfants qui sont pas justement, n'ont pas la chance d'avoir une famille qui s'occupe d'eux. Bon, moi j'y crois. Autrefois, moi j'étais à l'école, peut-être pas vous, vous étiez plus jeune que moi. Moi j'étais à l'école du lundi au samedi matin. Donc, et je n'en suis pas morte.
Donc
voilà.
Vous êtes pour cette
mais je serais pour et même je serais pour qu'on fasse du sport. Vous voyez, qu'on fasse le matin beaucoup plus d'enseignement théorique et que l'après-midi, on donne aux enfants le moyen de s'exprimer dans le sport.
Justement, ces activités périscolaires, qu'en est-il pour Montauban? Certaines communes ont choisi la gratuité. Qu'en est-il pour
Nous, c'est gratuit
notre
depuis
vie.
Très longtemps. Il faut savoir qu'à Montauban, c'est une tradition. Nous faisons depuis très longtemps du périscolaire, mais très avancé, puisque nous donnons des cours de gym, des cours de théâtre, des cours de, qu'est-ce qu'il y a, de musique. Tout cela gratuitement. Donc c'était l'occasion, on a un peu plus organisé les choses de façon à ce que ce soit mieux réparti sur les 40 écoles de la ville. Mais je dois dire que d'ailleurs, je trouve lamentable que, ça c'est un autre sujet, vous savez que Payon, au-delà de la semaine 4 jours et demi, a demandé aux enseignants de faire une heure de plus, c'est-à-dire au lieu de 24 heures par semaine, 25 heures, pour que la 25e heure soit consacrée précisément à approfondir des sujets. Bon. Normalement, c'est une heure pédagogique, donc qui relève de l'éducation nationale. Nous avons des revendications de la part des enseignants pour que les enfants qui ne prenaient pas dans cette heure-là soient pris en charge par la commune, au travers d'activités préscolaires. Ce que nous avons essayé de faire, et ça nous coûte beaucoup d'argent. Et donc, je vous l'ai dit, de la gym, du théâtre, de la musique, etc. Il y a des écoles, l'école du Faux, par exemple, où la semaine dernière, les enseignants ou les parents d'élèves ont bloqué l'entrée de l'éducateur donc qui allait faire le cours de gym dans cette école au motif que l'heure ne leur convenait pas. Quand je parle d'égoïsme, je parle de cela. C'est qu'à un moment donné, je ne comprends plus ce qui se passe dans notre pays.
Dernière question avant la pub, Brigitte Barège, il manque des écoles à Montauban ?
Non, il ne manque pas des écoles, mais nous continuons à en construire parce que la population s'accroît. Donc nous avons un plan pluriannuel, vous le savez, on a construit déjà 2 pendant mon mandat. On a opté plutôt pour des extensions d'écoles. Par exemple, vous le savez, on vient de finir l'école de Fontneuve. Nous allons livrer l'extension de l'école de Birac donc, en cours d'année. Et nous avons entamé les travaux d'extension de l'école verte de l'Hippodrome, de façon à rajouter des classes supplémentaires. Mais la difficulté, c'est que nous n'avons pas les enseignants que nous souhaitons, que nous souhaiterions en plus. Cette année, j'avais demandé à Vincent Payon, par l'intermédiaire d'un inspecteur d'académie, 8 postes supplémentaires parce que nous savions que nous avions des enfants en plus à inscrire dans les écoles. Nous en avons eu 6. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la problématique des demandeurs d'asile dont vous parliez fait que nous avons des classes en surnombre. C'est-à-dire qu'au lieu de 25, 27 enfants par classe, nous avons des endroits où ils sont plus de 30 par classe. Et là, je trouve ça assez choquant qu'à la fois, nous soyons maltraités par rapport à ce... On m'a dit qu'on avait créé des enseignants et des postes supplémentaires. Et bien, pour la rentrée scolaire de Montauban, en tout cas, ça s'est pas traduit dans les faits.
Brigitte Barège est l'invitée politique de Kader Youb. On revient dans un instant.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Voilà la suite du rendez-vous politique de CFM avec Kader Youb. Si vous avez raté le début, n'ayez crainte, il sera rediffusé demain à midi et podcastable sur cfmradio.fr.
Oui, Brigitte Barège, donc vous avez décidé de vous représenter aux électeurs de Montauban pour un nouveau mandat.
Un troisième.
Ce qui serait le troisième pour vous. Qu'avez-vous, avant de passer au chapitre projet, de retenir, de voir ce que dit l'opposition de votre souhait de vous présenter à la mairie de Montauban, qu'avez-vous retenu de vos défaites aux régionales et aux législatives de 2012?
Je pense que c'était pas le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des cycles hein, politiques. Autant j'avais pu bénéficier des vagues favorables quand j'étais élue députée à deux reprises, autant en 2012 c'était pas le bon moment. Le vent était dans notre sens. Je pense que si on votait aujourd'hui seulement un an après, peut-être que les résultats seraient différents. J'en suis même quasiment persuadée qu'en tant la désaffection, la désillusion par rapport aux promesses du François Hollande est telle que aujourd'hui, je pense que et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il ne voudrait pas risquer une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc voilà, il y a du temps pour tout. Les régionales, c'était pas le moment. On était en plein moment des d'abord, premièrement, une région quand même qui est très à gauche, très ancrée à gauche. C'est déjà un gros défi d'attaquer à Martin Malvy. Mais en plus, on était en pleine réforme, justement, territoriale. Vous savez, le fameux conseiller territorial qui ne verra pas le jour. Et évidemment, tous les élus locaux avaient été exaspérés par tout ça, la taxe professionnelle, tous ces sujets-là. Voilà. J'espère que, par contre, 2014, le vent sera meilleur.
Est-ce que vous vous réclamez toujours de votre parti, l'UMP?
Oui, bien sûr. Ben, oui. Je suis présidente de l'UMP, même si, bon, vous le savez, j'avais fait le choix de François Fillon plutôt que Jean-François Copé. Je sais, enfin, je vois bien, je fais que, bon, aujourd'hui, on a beaucoup trop de luttes de chefs pour déjà 2017. Et ça me choque un peu. Je crois qu'aujourd'hui, les Français attendent autre chose, hein, qu'on s'occupe de leur quotidien plutôt que de se projeter déjà dans des années où on n'est pas encore arrivé. Voilà, bon, maintenant, je suis légitimiste, j'appartiens à ce parti, je ne vais pas le quitter en cours de route.
François Baroin a juste une phrase, il a déclaré il y a quelques jours, une phrase qui est passée...
François Baroin,
une phrase qui est passée inaperçue, déclaré que l'UMP se porterait mieux s'il n'y avait pas Jean-François Copé. C'est votre avis aussi.
Je pense que l'UMP se porte mal depuis le départ de Nicolas Sarkozy. En fait, c'était le leader naturel et qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé ce leader. Ce sera peut-être lui de nouveau, ce sera peut-être un autre. Mais pour l'instant, je dois avouer que je n'en vois pas vraiment se détacher.
Bon, allez, on passe à Montauban. Donc vous allez donc vous présenter aux électeurs de Montauban sur quel projet? Est-ce que vous avez un slogan déjà
Alors le slogan, c'est un slogan que vous avez déjà découvert, c'est-à-dire c'était notre projet, c'est vous, c'est-à-dire un projet tourné vers la proximité encore plus, peut-être encore plus parce qu'on est en période de crise. Je voudrais faire mienne, vous savez, un slogan. C'est pas un slogan. Je suis allée au Salon des maires, vous savez, à Paris, là, il y a 15 jours. Et la devise des maires, et je crois que plus que jamais en période de crise, c'est protéger, rassembler, construire. Et je me retrouve bien là-dedans. Oui. Protéger la sécurité, les questions de solidarité, le social, construire. Bon, je crois que je peux dire me flatter d'un certain bilan depuis 12 ans en termes de construction d'équipements nouveaux. Et rassembler, c'est très important aujourd'hui où malheureusement, je le disais en commençant, la violence, l'égoïsme sont partout. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut au contraire faire tout pour mieux vivre ensemble.
Justement, comment investir? Vous parliez du congrès des maires. Le journal Le Monde a repris une de vos déclarations. Oui. Peut-être vous l'avez lu, concernant la baisse des dotations et le problème...
Nous sommes très inquiets sur l'avenir financier des collectivités.
Alors justement, comment investir? Comment mettre en place des projets si finalement, il n'y a plus d'argent?
Il faut être plus astucieux. Il faut, comme on l'a toujours fait, puisque je n'ai quasiment pas augmenté les impôts pendant 12 ans. 9% en 12 ans, ça fait 0,5%. De 6% par an, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser la dépense publique plus que jamais, la masse salariale évidemment, ça commence par là, mais aussi savoir faire quelquefois appel aux gestions externalisées.
Justement, gestion externalisée, partenariat public-privé, voilà. Délégation de services publics, c'est ce que vous reproche l'opposition,
Madame Barège,
mais... qui tire à boulet rouge sur votre gestion et sur, quelque part, l'aubération des services publics.
Je le revendique, vous voyez. Je revendique, et plus que jamais en période de crise et en période de vache maigre, parce qu'on va être en période de vache maigre. Juste un chiffre. Nous aurons, pour le budget montalbanais, moins 1,5 million d'euros, d'argent à dépenser, à investir. Tout simplement parce que l'État a augmenté nos charges. Je vais pas vous les décliner. J'ai fait des communiqués de presse entre des cotisations supplémentaires, la semaine des 4 jours et demi. Enfin, toute une série de mesures qui se sont appliquées de façon plus rétroactive. Mais par ailleurs, les dotations de l'État, une des recettes des collectivités qui sont d'un côté les taxes locales, les taxes des ménages, taxes foncières, taxes d'habitation. Par ailleurs, ce sont les dotations de l'État vont diminuer.
Vont diminuer en 2014 et en 2015. Est-ce que vous avez des assurances pour...
Moins 500 000 euros minimum, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que les moins 1,5 million tout ajouté, entre ce qu'on a en moins et ce qu'on aura comme charge en plus, ça équivaut, pour vous donner un ordre d'idée, à 60 postes de salaire, 60 équivalents de temps plein. C'est considérable. Ou, si vous voulez mieux, 6 points d'impôt supplémentaires. Or, je vous l'ai dit, ma philosophie depuis toujours, ça a été ne pas augmenter les charges, notamment des charges fiscales, les impôts locaux, mais aussi, on en parlera, le prix de l'eau, toutes les redevances diverses et variées que paie un contribuable montalbanais, nous avons même baissé. Eh bien, justement, en période de crise, plus que jamais, eh bien, on continuera dans cette démarche, on va dire, vertueuse, qui a été quand même honorée, et peut-être on le dit pas assez, par l'association Contribuables Associés qui nous a donné une note de 20 sur 20 pour la gestion de notre commune.
Donc vous parliez de l'eau, madame Barège, oui. J'ai sous les yeux ce livre, une lettre, Lettre à Montauban de Roland Garrigue, que peut-être vous avez lu.
Pas encore. Je vais le faire lire, je pense.
Alors,
que je n'aurai pas le temps.
Il y a un petit chapitre à la fin du livre qui dit « Reste à savoir », je cite Roland Garrigue, « Reste à savoir pourquoi la mère qui avait juré ses grands dieux qu'elle ne privatiserait pas l'eau a fait le contraire ».
Alors, je n'ai pas privatisé. Je pense que vous êtes comme Madame Boussy. Il va falloir que je répète ce que ça veut dire privatiser. Privatiser, ça veut dire que vous vendez votre bien. Il ne vous appartient plus. Nous avons fait tout le contraire. La délégation de services publics, la ville reste propriétaire de toutes ses installations, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse des parkings, qu'il s'agisse du golf. La ville est propriétaire. Simplement, ce qu'elle délègue, c'est simplement la gestion. C'est-à-dire que c'est plus des fonctionnaires municipaux qui vont faire les relevés de compteurs d'eau, les travaux de...
Ce sont des
salariés de Veolia, de la SOR ou de tout autre, de Cupar quand il s'agit des parkings. Et c'est un moyen pour nous de ne pas augmenter la masse salariale, mais en plus, de pouvoir maîtriser les prix.
Mais lorsque Marie-Claude Boussy dit, par exemple, c'est vous qui l'a cité, Marie-Claude Boussy.
Oui, parce que c'est
dit,
son dada.
Je vais remunicipaliser...
Non, mais Madame Boussy, elle a les qualités de ses défauts. J'ai une femme de conviction et je la respecte pour cela. Hein, mais elle a du mal à comprendre à chaque conseil municipal, on essaie de lui expliquer qu'on est maître de la situation. C'est comme pour le crématorium. Une délégation de service public, ça veut dire que chaque fois que le délégataire veut augmenter ses tarifs, que ce soit pour les parkings, c'est la même chose, il est obligé de nous demander l'autorisation. Et ça se vote en conseil municipal. Donc c'est une gestion totalement maîtrisée par la commune, sauf qu'on n'en a pas le coût de fonctionnement. Et non, sous comptant de ne pas en avoir le coût, en plus on récupère des redevances, une forme de location, si vous voulez, que nous verse le délégataire. Et je peux vous assurer que pour les finances publiques, c'est très intéressant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que plus que jamais, je pense que nous avons fait les bons choix. Qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse du PPP pour la piscine, parce que si nous avions emprunté les 25 millions d'euros que nous a coûté la piscine, eh bien c'était autant de dépenses en moins possible pour investir dans l'avenir.
Et ils vous disent que les prévisions d'affluence et de fréquentation n'est pas à la hauteur des enjeux.
J'ai reçu le délégataire qui s'appelle Vermarine. En l'occurrence, le constructeur, c'était le PPP, c'est Vinci. Le délégataire qui a la gestion de la piscine, Vermarine. C'est Vermarine, qui nous a dit qu'ils étaient particulièrement étonné d'avoir fait 40 000 entrées au mois de novembre, 40 000 entrées, plus qu'au mois de juillet, 30 000 entrées. Ils sont très très heureux, au contraire, des perspectives de rentabilité.
Le temps passe, Madame Barège.
Je suis désolée.
Que comptez-vous faire pour...
Enfin, que je revienne.
Oui, vous reviendrez. Que comptez-vous faire pour le centre-ville?
J'ai fait beaucoup de choses déjà.
Est-ce que vous avez pris une décision quant à la gratuité que souhaite beaucoup de personnes, la gratuité des stationnements autour du centre-ville?
Non, ça, ce n'est pas sérieux.
Non.
Ce n'est pas sérieux. Écoutez, l'heure de stationnement coûte 1,20€ de l'heure. C'est le plus bas de tarif de Midi-Pyrénées. Je vous invite à aller à Toulouse, à Albi ou ailleurs. Par contre, nous avons négocié avec le délégataire il y a 15 jours la possibilité pour les commerçants d'acheter 60 centimes ces tickets et de les offrir à leurs clients à titre de promotion, de façon à ce que pour le client, ce soit un parking gratuit. Ça, c'est une politique commerciale qu'on a pu imposer au délégataire dans le cadre de ce que je vous dis, c'est-à-dire de la maîtrise.
Pour une période donnée, par exemple,
non,
pour les
fêtes. Tout au long de l'année, s'il le souhaite. Hein, c'est un accord entre le commerçant et le délégataire. Voilà notre façon de gérer les choses. Je dois dire d'ailleurs que je finis sur la piscine, oui. Que dans le contrat qu'on a ficelé, on est très dur quand on négocie, c'est mon côté avocat. Eh bien, le délégataire, même s'il faisait de mauvaises affaires, eh bien, il est obligé non seulement de se l'enquiller, c'est un peu trivial, de le supporter tout seul. Et s'il fait des bénéfices, il doit les partager avec nous. Ça, c'est bien négocié. De la même manière pour le golf. C'est-à-dire
Est-ce que vous avez annoncé qu'il y aurait peut-être un repreneur?
Un repreneur du golf. Alors, vous aviez mal compris, je précise. Repreneur actuellement est en redressement judiciaire. Bon, ça, on verra, pour l'instant, il l'exploite. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a vendu des grosses parcelles autour du golf, ce qui est intéressant pour nos finances de la société publique locale d'aménagement.
Il reste 1:30 exactement. Je peux tenter une toute petite question qui apporte une réponse courte. On vous reproche d'avoir un agenda de chantier très ramassé là sur la fin de votre mandat. Quand on se promène dans Montauban, c'est vrai qu'il y a des chantiers partout. Hein,
je pense qu'ils seront terminés pour la plus grande part fin décembre. Hein. Les derniers chantiers, vous l'avez vu, c'est la rue Marie-Lafont.
Mais sur le fait qu'ils soient en fin de mandat.
Ben, non, je ne peux pas me reprocher de ne pas l'avoir fait tout au long du mandat, puisque nous avons investi 300 millions d'euros sur cette commune par des chantiers de la commune et de l'agglomération depuis que je suis maire. Donc les chantiers, il y en a eu tout le temps. Et d'ailleurs, je pense que si on devait, vous ne m'avez pas demandé ce que je pensais de mes adversaires, ils ne sont pas gênés pour dire tout le mal qu'ils pensaient de moi. Peut-être que je devrais opposer à Roland Garrigue le côté d'absence de bilan, le conservateur, et moi la modernité, l'action, le mouvement, et surtout la construction d'une ville dont tout le monde aujourd'hui est fier. Et si j'ai bien une occasion dont je suis fier moi-même, c'est non seulement de mon bilan, mais c'est de la fierté que j'ai donnée à un certain Montalbanais d'être identifié à ce territoire. Je l'ai vu lors des trophées de l'économie. On parlait du centre-ville. La dépêche est furieuse, Monsieur Baillet, sans doute.
Aujourd'hui,
j'ai droit pendant 15 jours sur la critique de l'économie. Eh bien, je peux vous dire que si vous étiez venu au trophée de l'économie, vous auriez vu quelle perspective nous avons amené sur le dossier de l'Occitan, à deux pas de chez vous, 30 millions d'euros d'investissement. Sur la friche Poult, 15 millions d'euros d'investissement. Tout ça, c'est du centre-ville. Et nous allons continuer parce que je crois qu'il faut effectivement des locomotives en centre-ville. Il faut investir massivement sur ce centre-ville qui est quand même qui a changé l'aspect depuis que je...
Ce sera votre priorité, ça, le...
Écoutez, moi, quand j'étais élu maire, il y avait des clochards partout, il y avait des bornes pour empêcher les voitures béliers de défoncer les vitrines. Ça, les gens l'ont oublié, parce que pour faire venir les gens
non,
au centre-ville...
Non, ils l'ont pas oublié, parce que votre position...
Eh bien, je peux dire que pour faire venir des investisseurs dans une ville, il faut d'abord qu'elle soit sûre. Il faut que la sécurité, il faut qu'elle soit propre, on a fait énormément de choses, il faut qu'elle soit belle, nous avons fait beaucoup de choses sur l'embellissement. C'est tout un cadre de vie qu'on a amélioré, qu'on a transformé, qui font que, j'espère en tout cas, on a envie de venir vivre à Montauban.
Est-ce qu'un maire peut faire quelque chose pour l'économie de sa ville ?
Bien sûr.
Dernière question.
C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on attire des investisseurs, on les installe, on essaie de les accompagner, on leur permet de trouver de l'emploi. Nous avons offert 5000 emplois par an sur le territoire montalbanais, pas que la ville, mais en faisant venir justement des entreprises d'ailleurs. Le Roi Merlin qui va s'installer en zone nord, c'est 160 emplois qui vont arriver l'année prochaine.
Merci Brigitte Barège.
Merci.
Merci Brigitte Barège, était l'invitée de Kader Youb. Prochain invité jeudi prochain.
Alors les deux prochains jeudis, ce sera un focus sur Castelsarrasin avec Pascal Granier, donc le jeudi 12 et le jeudi 19, ce sera donc Monsieur Pézier qui nous rendra visite à CFM.
Merci Kader.